Oh, je ressens tellement
merci,
la présence douce et tendre du Seigneur. Et il veut simplement vous dire, aucune de mes brebis n'est délaissée par moi. Je m'occupe tendrement de chacun de vous. Soyez-en conscients, vous dit le Seigneur. Comme Paul a dit au roi Agrippa, pourquoi parmi vous juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite des morts? Et Job a pu dire, je sais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est trop difficile pour toi. Il y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Rien n'est impossible pour notre roi, notre créateur, notre Seigneur. Rien du tout. Et je voudrais partager avec vous ce qui s'est passé et ce verset du psaume 50 aussi qui introduit ce merveilleux témoignage. Et ça s'est passé en France, à Montélimar, l'année dernière. Le Seigneur n'est pas seulement le Seigneur des Africains, il est le Seigneur des Européens aussi, et le Seigneur des Américains aussi, et le Seigneur des Asiatiques aussi, et le Seigneur du monde entier. Alors, pour introduire ce magnifique témoignage, ce verset du psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est ce qui s'est passé pour une dame, vous allez voir le Seigneur merveilleux, qui a été miraculeusement guérie à notre convention de Montélimar, la dernière en France, depuis 27 ans que nous en faisons en France, alors nous avons arrêté maintenant, mais c'était notre dernière et le Seigneur a fait une grande chose là. Il a guéri miraculeusement une femme qui avait deux tumeurs au cerveau, dont une inopérable. Elle était condamnée par la médecine. Les effets du cancer avaient déjà fait des ravages dans son organisme. Quand elle est venue, c'était... le voile de la mort était déjà sur elle. Elle était grise, de teint, jaune, grise, enfin, un teint absolument pas normal. Et cette femme, elle se battait avec son cancer et ses tumeurs au cerveau depuis 1998, comme on dit ici. Elle a eu la première tumeur apparue dans son cerveau en 1998 ou 98, et là, heureusement, le côté gauche a commencé à se paralyser, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait des séquelles. En 2001, une nouvelle tumeur, encore. Alors, elle se battait, elle criait au Seigneur. Comme il a été dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. C'est ce qu'elle a fait. Elle a crié au Seigneur. Vous allez voir, c'est merveilleux, non? C'est une femme qui ne s'est pas laissée arrêter par rien. En 2004, 2001, donc récidive de la tumeur, 2004, nouvelle récidive de deux tumeurs, au cerveau toujours, dont une inopérable. Impossible de toucher à cette zone de son cerveau car elle aurait eu des séquelles irréversibles. Les deux hémisphères du cerveau n'auraient plus été connectés. Aussitôt, elle a à nouveau crié à Jésus. Et elle s'est appuyée sur le verset de Philippiens 4:6 « Et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. » Et puis elle a reçu une paix extraordinaire. Malgré ses traitements lourds de chimio, son corps physique se dégradait, mais spirituellement, sa marche avec le Seigneur se renforçait. C'est magnifique ça. Elle faisait des chimios dans l'attente que les tumeurs régressent, évidemment. Mais le Seigneur en avait décidé autrement. ne nous connaissant pas du tout, elle est venue pilotée par le Seigneur et quelques amis, comme ça, à notre rencontre de Montélimar. C'était en mai 2006, donc l'année dernière. Donc, je la fais parler maintenant. J'ai assisté alors à la convention chrétienne à Montélimar. Il s'agissait d'une convention compassion avec Samuel et Dorothée Azacordian que je ne connaissais absolument pas. Quelques semaines avant cette convention, j'avais arrêté ma chimio. Des amis m'ont amené à cette rencontre. Lors d'une réunion, Dorothée Azacordian a eu une première parole de connaissance de la part du Seigneur, s'adressant à une personne qui souffrait de troubles intestinaux. J'ai pris cette parole pour moi, car depuis mon enfance, j'ai toujours eu des troubles à l'intestin. Et là, peut-être 50 ans, je pense, à l'estimer. Mais le comble a été, lorsque quelques instants plus tard, elle a donné une autre parole disant qu'une personne dans l'auditoire avait une tumeur au cerveau, avec de violents maux de tête, que les médecins ne pouvaient rien faire. Mais le Seigneur lui disait, « Mais moi, ton Dieu, je sais, je connais la situation. » Et elle avait, avant la convention, un rendez-vous avec le docteur. Et donc, le professeur de la chimio lui avait encore dit, « Attention, madame, si vous ne reprenez pas votre chimio, eh bien, vous savez à quoi vous vous exposez. C'est fini pour vous. Nous ne pourrons plus rien faire. » Mais, suite à ce qui venait de se passer, cette parole de connaissance, elle a pris, elle est venue d'ailleurs devant. Elle est venue tout de suite me dire, « C'est moi. » Et puis, je vous assure que ça se voyait. Ça se voyait. Alors, suite à ça, elle a encore eu un combat. Parce que, par la suite, elle a donc, l'oncologue voulait lui faire reprendre la chimio. Et puis, elle a dit, écoutez, docteur, je reprendrai à condition que vous me fassiez d'abord un IRM, hein, du cerveau, et on verra. Et je vous assure, elle lui a dit, vous voyez comme elle avait la foi, je vous assure que cet IRM-là ne sera pas le même que le dernier. Et voilà qu'en octobre dernier, après la convention, elle reçoit le résultat de cet examen, plus de tumeur visible. C'était fini. Depuis le mois de mai, jusqu'à quand les résultats définitifs, ça a duré jusqu'au mois d'octobre. Mais le résultat a été cela. Et maintenant, cette dame, elle rend témoignage partout, dans des églises, dans le sud de la France, partout. Son témoignage passe dans différents journaux d'église aussi. Et puis, dernièrement, elle m'a écrit encore sur Internet. Et puis, elle m'a dit, tu sais, je suis allée voir l'oncologue et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, avec la chimiothérapie, quand je faisais de la chimio, les tumeurs ne regressaient pas d'un millimètre. Pouvez-vous m'expliquer cela? Alors qu'il savait très bien que maintenant il n'y en avait plus. Le tumeur l'avait séché. Eh bien, l'oncologue lui-même a dû déclarer, je ne sais pas, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Mais nous savons d'où ça vient. Et nous donnons toute la gloire à celui qui a sauvé cette femme de la mort certaine. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi. Bénis Yvette encore. Bénis-la là où il se trouve et rends-la en bénédiction partout où elle témoigne de toi. Louange et gloire à toi. Alléluia. Et puis juste encore, un autre témoignage qui n'est pas moindre non plus. Nous venons de le vivre au Canada. Notre dernier séminaire de l'année dernière, ce n'est pas le dernier que nous allons faire, mais c'est celui que nous avons fait en septembre dernier à Montréal. Le Seigneur a fait quelque chose de fabuleux, mais y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Vous savez, notre foi est bien petite, hein? Bien petite souvent. Et puis, ce qui s'est passé là, c'était formidable. À un moment donné, cette parole de connaissance m'a été donnée qu'un couple avait laissé une handicapée mentale à la maison. Attention. depuis 40 ans, plus de 40 ans, handicapé mental. En psychiatrie, de nombreuses fois. Et j'ai dit, il y avait tellement la présence du Seigneur, c'était merveilleux. Nous, on était tellement faibles, tellement. C'était le Seigneur dans toute sa grandeur qui était présent. Et le Seigneur a dit, eh bien, elle n'était pas là, la personne. Il y avait juste le couple. C'était, le monsieur était le frère de cet handicapé, qui vivait chez lui, d'ailleurs, à la maison, là-bas, à distance. Hein. Et puis, le Seigneur a dit, je vais balayer cet handicap de mon doigt avec une autorité. C'est ce qui s'est passé, savez-vous. Le couple est rentré à la maison le soir. Et ils connaissent bien la sœur, là, avec son handicap mental depuis des années à leur charge, parce que l'hôpital psychiatrique l'a renvoyé bien des fois à la maison, ne sachant plus quoi faire. Il n'y avait plus rien à faire. C'était net. C'était une handicapée mentale, nous l'avons vu, c'était un glaçon cette femme, un roc sans émotion, sans rien, comme on voit dans les asiles psychiatriques, vous savez, des cas lourds. Et donc le couple rentre à la maison de notre séminaire, et il raconte à Julienne, elle s'appelle cette dame, il lui raconte ce qui s'est passé au séminaire, ce qu'ils ont vu. Ils ont vu aussi un film, comme vous avez vu, avec des miracles. Et puis ils ont dit, et il y a eu une parole pour toi. Au moment où ils ont dit, il y a eu une parole pour toi, elle est touchée par le doigt de Dieu, et ce couple assiste à un phénomène qu'ils n'ont jamais vu dans cette femme. Elle a une crise d'émotion. Elle devient toute rouge. Et elle est délivrée par le Seigneur de son handicap mental. Et aujourd'hui, ben ça c'était en septembre, aujourd'hui, son neveu dit, ma tante n'est plus handicapée mentale. Petit à petit, l'handicap est parti. Si c'est à la gloire du Seigneur, à lui la gloire, la puissance qui leur revient, et nous voulons lui donner toute notre reconnaissance d'avoir touché cette Julienne. Merci Seigneur. Et cette Julienne qui n'est pas encore tout à fait au Seigneur, elle est en train de s'ouvrir à l'Évangile. Elle voit la main du Seigneur chez les gens qui l'entourent. Ça commence par là. C'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. C'est à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur. Soyez bénis en écoutant la parole de Dieu.
Seigneur, nous voulons te remercier encore pour tout ce que tu es. Tu es ému de compassion devant les malades. Nous sommes dépassés, Seigneur, devant ces choses. Mais toi, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Et merci encore pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Seigneur, il y a aussi des besoins, des souffrances. Tu as aussi compassion. Et nous voulons être attentifs à ta voix et recevoir ce que tu veux nous donner dans ton amour. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nos vies sont à toi. Mets en nous tes sentiments encore. Et que nous puissions toujours plus te ressembler. Béni sois-tu. Béni soit ton saint nom éternellement. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Nous restons dans la présence du Seigneur. Il est là, que nous puissions tout simplement regarder à lui. La clé de la guérison, c'est Jésus, Jésus seul. C'est à lui que nous devons constamment nous tourner. Que son nom soit béni. Mais il veut aussi parler à notre âme, Car le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand des miracles, c'est la guérison de l'âme.
Amen.
Le salut de l'âme.
Amen.
Ça, c'est le plus important. Plus important. Et si Dieu touche les corps, c'est en vue de toucher l'âme. Et la rendre consciente de l'amour de Dieu pour sauver cette personne et l'amener au pied de la croix. Le plus grand des miracles, le salut de l'âme et la vie spirituelle de celui qui est sauvé. Et j'aimerais juste vous donner quelques pensées importantes pour tout chrétien. Tout chrétien, je pense que nous désirons tous vivre une vie qui plaise à Dieu, n'est-ce pas? Si on est vraiment né de nouveau, converti, vous avez certainement prié, Seigneur, que ma vie te plaise, te soit agréable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Plaire à Dieu, une vie qui plaise à Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous aider dans ce domaine. Et nous allons prendre quelques références où la mention de plaire à Dieu intervient. Parce que parfois nous pouvons penser que nous plaisons à Dieu, alors que nous ne plaisons pas du tout au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire qu'on plaît à Dieu comme cela, sans que nous puissions vérifier si c'est vrai dans la parole, n'est-ce pas vrai? On peut se faire beaucoup d'illusions dans ce domaine-là. Plaire à Dieu. Et lorsque je méditais là-dessus, cette pensée m'est venue qu'il y a déjà, en tout cas, trois sortes de chrétiens. Trois sortes de chrétiens. Il y a le chrétien qui ne cherche pas à plaire à Dieu, lui, mais cherche à plaire aux autres. Donc il y a ceux qui cherchent à plaire aux autres. L'apôtre en parle souvent, l'apôtre Paul, les Écritures en parlent souvent. Il y a une deuxième sorte de chrétien. Celui-ci, c'est quelqu'un qui cherche à plaire à lui-même. Et il y a la troisième sorte de chrétien. Celui qui cherche à plaire à Dieu. Déjà là, nous devons nous poser une question. En quoi se résume ma vie chrétienne? À qui est-ce que je veux plaire? Et à cela, il vous faut, il me faut répondre. Car autrement, notre vie ne pourra pas vraiment plaire au Seigneur. Il faut d'abord éliminer cette première fausse notion de vouloir plaire aux autres. Et beaucoup de chrétiens, et aussi des prédicateurs, parce que c'est la tentation de beaucoup de prédicateurs, de vouloir plaire à son auditoire. Pas seulement le prédicateur, les chrétiens aussi. Toi qui veux vraiment plaire au Seigneur, est-ce que dans le fond de ton cœur, tout ce que tu fais, c'est pour plaire aux autres? La preuve, c'est que bien souvent, quand les autres ne nous approuvent plus, ou ne sont plus tellement d'accord, alors on commence à faire sa petite dépression. On dit, mais Seigneur, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Comment ça? Je fais tout ce que je peux avec ces gens-là, et c'est le seul remerciement qu'ils m'accordent. J'arrête tout maintenant, c'est fini. Je ferai plus rien du tout. Et des multitudes de chrétiens sont sur une voie de garage, uniquement parce qu'ils cherchent constamment l'approbation des autres. Ils cherchent à plaire aux autres. Et en cela, il y a ce passage de Paul dans les Galates, n'est-ce pas, que vous connaissez bien certainement. Peut-être qu'il est bon de le lire. Galates 1, chapitre, les vers, chapitre 1 et les versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu qu'il soit anathème. Et ce verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, voyez-vous, plaire à l'autre, plaire aux hommes? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ces paroles sont extrêmement sérieuses, n'est-ce pas? Si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise, qui que nous soyons, parce que Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous, il nous faut résoudre ce problème. À qui est-ce que je veux plaire? Tout au fond de moi-même, dans ma vie chrétienne, dans mon témoignage, dans les responsabilités que Dieu m'a confiées, à qui est-ce que je veux plaire? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Paul dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Il y a donc là une réponse à donner. À qui est-ce que vous cherchez à plaire? Est-ce que vous attendez continuellement l'approbation de l'un ou de l'autre pour faire quelque chose? Et quand on vous approuve, tout est merveilleux. Mais quand on vous désapprouve, il n'y a plus rien. Comme Paul disait aux Galates, je m'étourne de ce que vous détourniez si promptement. Pourtant, il nous y dit dans l'épître aux Galates plus loin que Paul leur avait dépeint Christ comme crucifié. Le message de la croix avait été prêché avec puissance. Il n'était pas ignorant. Il connaissait le message. Il dit, je m'étonne de ce que vous êtes en train de vous détourner. Le verbe détourner veut dire qu'ils sont... Ils ne se sont pas complètement détournés, mais ils sont en train de se détourner du véritable évangile pour se tourner vers un autre évangile. Et tout cela, pourquoi? Pour plaire aux hommes. Une des caractéristiques d'un faux docteur, c'est de vouloir plaire aux hommes. C'est cela. Ne l'oubliez jamais. Dans les Écritures, partout où nous voyons cela, les faux docteurs, ils ne cherchent pas tellement à plaire à Dieu, ils cherchent à plaire à leur auditoire. C'est très important pour eux, très important. Donc il faut régler ce problème. Seigneur, à qui est-ce que je veux plaire? À toi ou aux hommes? Je veux une fois pour toutes ne cherchez qu'à te plaire à toi. Écoutez-moi bien. Si vous cherchez à plaire au Seigneur, forcément, d'autres se tourneront contre vous. Parce que vous ne pouvez pas plaire à Dieu et aux hommes en même temps. Si vous plaisez à Dieu, vous allez déplaire à beaucoup d'autres. Êtes-vous prêt? Acceptez cela. Ce sont des vérités de base, essentielles. Essentielles. Plaire aux autres. Seigneur, je veux abandonner cela. Je veux te plaire à toi. C'est ton approbation que je désire et rien d'autre. Mais il y en a d'autres qui cherchent à se plaire à eux-mêmes. Seul désir, leur seule pensée, c'est leur réputation, leur titre ou leur sous-titre. C'est eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils cherchent à plaire à eux-mêmes. Et dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, il est dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Avez-vous remarqué, c'est la première caractéristique. Parce qu'il en donne 18 ou 19, je crois. Et le mot égoïste, vous savez ce qu'il veut dire dans le texte grec ? Amoureux d'eux-mêmes. Ils seront amoureux d'eux-mêmes. Cherchez à plaire à soi-même. Si vous allez gratter un peu à la racine de beaucoup de nos problèmes, bien souvent, il y a ce problème-là. Où nous avons été froissés dans notre amour-propre. Nous ne vivons que pour nous-mêmes. Ce sont nos désirs, notre réputation qui comptent avant toute chose. Et pour nous, c'est très important. Mais s'il en est ainsi, nous risquons d'arriver à l'apostasie, n'est-ce pas vrai? Et c'est comme cela que petit à petit, on s'éloigne de la vraie foi. Plaire à soi-même. Le péché lui-même, vous le savez, une des définitions du péché, c'est de faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et un chrétien, une personne chrétienne qui ne vit que pour elle-même, c'est cela la définition du péché. C'est moi qui compte avant tout. Les autres viennent après. Plaire à soi-même. Combien de temps on a pour nous-mêmes? On ne compte pas le temps que l'on calcule pour soi, mais quand il s'agit de le faire pour les autres ou pour le Seigneur, là on n'a plus le temps. N'est-ce pas vrai? Au Seigneur, c'est les miettes qu'on donne. C'est les miettes. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie totalement égocentrique. Et c'est ce qui nous rend malheureux, avez-vous remarqué? Que vous n'arriverez jamais à satisfaire une personne égoïste ou égocentrique. Jamais vous n'arriverez à la satisfaire. Même si apparemment elle est contente parce qu'elle a eu ce qu'elle a voulu. Mais quelques temps après, ça recommence. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut encore autre chose. Une personne égoïste, vous ne pouvez jamais la satisfaire. C'est pourquoi nous devons régler ce problème. Paul disait à Timothée, tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai? Tous cherchent leur propre intérêt. Et si nous ne veillons pas, nous pouvons tourner autour de nous-mêmes, passer notre vie qu'à vivre pour nous-mêmes, à nous défendre nous-mêmes, à écraser les autres en se mettant en évidence. Et on peut faire beaucoup de choses tristes et tragiques. À qui voulez-vous plaire? Il y a trois sortes de chrétiens. Ceux qui plaisent, qui cherchent à plaire aux autres. D'autres qui cherchent à plaire à leur propre personne, ou alors chercher à plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu? Les quelques références que je voulais vous donner, j'en ai quelques-unes ici, je vais vous les donner. Et plaire à Dieu, c'est comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. On a cette référence dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, il y a cette référence. Paul dit, chapitre 4, à partir du verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et écoutez bien maintenant, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un, soulignez bien cela dans votre Bible, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. On voit ici quelque chose qui est agréable au Seigneur. Les dons de ces Philippiens pour les missions de Paul. Et il parle de ces dons qu'il recevait comme étant un sacrifice de bonne odeur qui est agréable à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne voit pas souvent Paul parler de cette manière, et c'est concernant justement l'argent et surtout ce don par rapport à Paul pour l'évangélisation, pour la mission. Et on le voit, ce qui est agréable à Dieu est comme un parfum de bonne odeur. Et ce qui plaît à Dieu est ce qui est comme un parfum aux yeux du Seigneur. Alors comment plaire au Seigneur? Comme nous avons parlé de parfum, je vais vous donner quelques parfums maintenant. Le premier parfum est celui-ci. Nous le trouvons dans Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, 29. Nous allons trouver là le premier parfum. Au verset 28, déjà Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez-vous? Voilà. Comment plaire à Dieu en suivant l'exemple de Jésus? Qui faisait toujours tout pour plaire à son Père céleste. Continuellement. Et vous l'avez remarqué, parce que Jésus faisait cela, il est dit, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyez-vous, quand quelqu'un fait les choses qui sont agréables à Dieu, cette personne a la présence de Dieu avec elle. Cette personne-là ne sera jamais seule. Amen. Et dans cette pensée de « je fais toujours ce qui lui est agréable », il y a au fond même de cette pensée cette relation d'amour avec le Seigneur. Une relation d'amour. Et c'est cette relation d'amour qui était là vivante entre le Seigneur et son Père. Quand il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
penser, eh bien Jésus a aimé son Père comme cela. Il y avait un amour total, profond, de Jésus pour son Père. C'était merveilleux. C'est pourquoi le Père a pu dire, le jour de son baptême, à Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Parce qu'il faisait toujours ce qui lui est agréable. Et en cela, s'il vous plaît, notez bien cela, c'est cette relation d'amour avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a reproché à Éphèse, c'était quoi? C'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Nous pouvons facilement tomber dans une routine, dans des traditions. Nous nous souvenons quand nous nous sommes convertis, où il y avait cet amour profond, sincère pour le Seigneur. Mais où en es-tu? Où en est-on maintenant? Où en es-tu aujourd'hui? Cet amour que tu avais pour ton Sauveur, où est-il maintenant? Tout est devenu tradition, routine. Aller à l'église, ça devient une charge. Autrefois, c'était une joie. J'étais heureux quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. On ne comptait rien du tout, tellement l'amour était là. Il n'y a rien qui nous arrêtait, mais aujourd'hui, la moindre chose nous arrête. Mon papa est malade, je suis obligé d'aller là-bas. L'autre, il a fait ceci et cela. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas s'occuper des siens, mais bien souvent, le Seigneur passe au second plan. Et c'est ce que le Seigneur reproche à chacun d'entre nous. Si nous ne veillons pas à cette relation, comment plaire à Dieu? En ayant une relation d'amour avec le Seigneur, que j'entretiens, que je nourris, et que je veux grandissante, continuellement, alléluia, cette relation d'amour. Si tout devient un devoir, une charge, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, notre vie ne plaît pas au Seigneur. Elle plaît au Seigneur, quand nous faisons comme le Seigneur. Paul dit bien, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2:5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là le point le plus important, veiller à cette relation d'amour. Est-ce que tu peux vraiment dire que le feu de cet amour brûle sur l'autel de ton cœur? Est-ce que l'amour du monde, est-ce que les plaisirs de la vie, est-ce que les soucis de la vie n'ont pas commencé à éteindre cette flamme? Où tu trouves partout des arguments, des raisons pour ne plus faire ce que tu faisais avant? Tu trouves toujours une excuse pour ne pas faire ce que Dieu te demande. C'est parce qu'il n'y a plus cette relation intime et profonde. Quand l'amour est là, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus rien qui compte. Aucun sacrifice n'est trop grand quand on aime vraiment. Amen. Aucun sacrifice n'est trop grand. Mais quand on commence à calculer un peu ce qu'on fait pour le Seigneur et qu'on commence à mesurer les choses, alors c'est un très mauvais signe spirituel. L'amour ne calcule pas. Alléluia. C'est la qualité de l'amour. C'est le propre de l'amour. Voulez-vous plaire à Dieu? Alors, il faut faire comme le Seigneur. Avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Car tout va dépendre de là. Souvenez à Éphèse, Jésus, il est dit qu'il faisait beaucoup de bonnes choses. mais j'ai une chose contre toi. Il pouvait faire beaucoup de choses. Ils étaient fidèles. Ils combattaient même la sainte doctrine. Pour la sainte doctrine. Ils faisaient même beaucoup de choses. Ils savaient discerner même les erreurs par-ci, par-là. Mais j'ai quelque chose contre toi. Nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses. Et nous pensons, ah, mais puisqu'on fait toutes ces bonnes choses, le Seigneur est d'accord. Il ne va pas quand même me tirer les oreilles. Je fais tant de bonnes choses. Non. Non, le Seigneur n'est pas comme cela. Parce que s'il tolère cela en nous, il sait que cette chose-là nous mènera un jour à l'abandon même de la foi et à la trahison. Voulez-vous plaire? Je fais tout pour lui être agréable. Est-ce là votre prière? Et cela s'explique par une relation d'amour où le Seigneur a la première place. La première place. Et quand il y a un véritable amour, écoutez-moi bien, il y a un esprit de sacrifice aussi. Et un jour, j'avais lu cette pensée dans un livre qui m'est toujours resté. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Ça s'est rentré ici, c'est plus jamais ressorti. Le sacrifice et la respiration de l'amour. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier. On est prêt à renoncer à tout un tas de choses. On est prêt, on est prêt. C'est la définition même de l'amour. Un amour qui n'a pas de, qui ne fait pas de sacrifice. Ce n'est pas un véritable amour. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier quand il le faut ? À suer un peu quand il le faut, à prendre notre temps, à changer nos habitudes, qui souvent nous font aller dans des voies de garage. Si l'amour n'est pas là, c'est le plus grand danger spirituel qui nous guette. Et Pierre, il devait comprendre, là aussi, ce que signifiait l'amour, le véritable amour. Parce que le véritable amour, c'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui s'oublie lui-même. Mais Pierre ne connaissait qu'une autre sorte d'amour. C'était l'amour humain, l'amour agape, l'amour philéo. Philosophie, philanthropie. Et quand Jésus lui a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Autrement dit, as-tu de l'amour agapé pour moi ? Et Pierre ne répond pas au Seigneur. Il lui dit, tu sais toute chose, j'ai de l'amitié pour toi. J'ai de l'amour philéo. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et l'amour philéo, c'est quoi ? C'est un amour qui dit, je t'aime si tu m'aimes. Si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Mais si tu m'envoies promener, eh ben, je t'enverrai promener aussi. Attention à ce que tu fais. Hein. Attention, je serai gentil, c'est gentil. Mais si tu me fais une grâce, alors là, tu vas la sentir passer. C'est ça l'amour humain. Et combien d'entre nous, combien de chrétiens? Je bénis le Seigneur de ce qu'un jour, dans une école publique, j'ai dû apprendre cette leçon. Tout à fait au début de mon ministère. Enfin, je n'avais pas de ministère, c'est encore un grand mot. En formation, disons. Quand le fils du directeur est venu me voir, le fils du directeur de l'école biblique, « Mais Sam, toi, je me souviens plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a profondément vexé. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais moi, il m'a vexé. » Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, je suis resté dans mon coin, je n'allais plus au cours biblique, je n'allais plus nulle part. Complètement bloqué. Et moi-même, j'étais étonné, je vous dis franchement, de ma réaction. Je ne pensais pas que moi, je pouvais réagir comme cela. J'étais surpris par mes propres réactions. Et j'étais malheureux, bien sûr. Et même le directeur est venu me voir, parce qu'il voyait que je ne faisais plus au cours. Alors, ça commençait à créer des roues. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah oui, mais tu vois, c'est mon fils, il a dit ça. Je ne veux rien savoir. Il n'avait pas à me dire ça. C'est qu'il a fait, en effet. C'était pas bien, ce qu'il a fait. Mais moi, c'était pas bien comment je réagissais aussi. Si son action était mauvaise, moi, ma réaction était mauvaise. Je ne l'ai pas écouté. Non, je veux rien savoir. Alors, il est connu, il ne pouvait rien faire, il est parti. Et moi, j'étais malheureux. Le dimanche matin, arrive au culte. Je dis, mais je ne pourrais pas rester dans ma chambre comme ça, je suis en formation. Alors, j'ai dit, Sam, tu dois aller au culte. Et j'y vais. Et là, ce jour-là, et c'est ce qui m'a ouvert les yeux. Justement, le directeur a porté un message sur l'amour divin et l'amour humain. L'amour agapé qui vit pour donner et l'amour philéo qui vit pour recevoir. C'était les gros, deux grosses différences fondamentales. Et d'un seul coup, les écailles sont tombées de mes yeux et je me suis vu en train de vivre avec cet amour philéo. Je me suis dit, Sam, voilà pourquoi tu es dans cet état-là. Parce que tu n'as vécu que pour recevoir. Tandis que l'amour divin agapé ne vit plus pour recevoir, mais il vit pour donner. Peu importe ce que les autres te font, il vit pour donner. Et là, devant le Seigneur, je me suis humilié. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir jusqu'à présent vécu de cet amour philéo. Je ne savais pas que j'avais de telles réactions en moi. Et j'ai demandé pardon. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où sincèrement j'ai demandé pardon, il y a comme un poids qui a quitté mes épaules. Quelque chose en profondeur s'est passé en moi. Et j'ai dit au Seigneur, à partir de maintenant, cet amour filéo, je l'enterre. Et je veux vivre de cet amour agapé. Je n'attends plus rien de personne maintenant. Parce que l'amour filéo, c'est ça. On est toujours comme... Faites de nous des mendiants. On attend un petit merci. On attend une petite visite. On attend un petit téléphone. Mais si ça ne vient pas, on est plus gentil. On change complètement. On change. Et puis parfois on est étonné même de voir comment on change, n'est-ce pas vrai? Non, c'est pas possible. Lui là qui se croit très spirituel, ben, il n'est pas un mot depuis. Il me dit plus bonjour. Qu'est-ce qu'il a encore contre moi? Ah, contre toi? Oui, contre moi. Ah, c'est le moi qui a un problème. Voilà. C'est le moi qui a un problème. Et alors là, j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, c'est fini. Et je vous assure, cette révélation-là m'a complètement libéré et a été une force dans le ministère. Et si pendant 40 ans, ou plus de 40 ans, nous persévérons, c'est parce que nous avons lu Maître, bien sûr. On a nos faiblesses, on a notre fragilité, mais cette détermination est là. Seigneur, je ne veux plus vivre de cet amour filéo. Qui nous rend esclaves des uns et des autres? Du comportement de l'un et de l'autre, tant qu'on nous approuve, merveilleux, mais le jour où on nous désapprouve, le jour où on nous envoie promener, il n'y a plus personne. On fait nos crises, on tombe dans une dépression, et on n'en finit plus. Et aucun cachet ne pourra te délivrer de cela. J'ai dit, Seigneur, c'est fini maintenant, je n'attends plus rien de personne. Si on me donne quelque chose, c'est un surplus. C'est du surplus. Mais je n'attends plus rien. Et je ne veux plus rien. Je veux maintenant vivre pour donner. Donner et me donner. Le véritable amour se sacrifie. Et là, ça a été le départ pour moi. Un déblocage dans ma vie spirituelle. Et c'est pourquoi, derrière toutes ces paroles, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il y a cette pensée-là d'un amour qui se sacrifie. Si nous ne connaissons pas, si tu ne connais pas cela, alors tu vis encore de cet amour filéo qui est dans le monde, qui vit dans le monde. Cet amour filéo est là. Nous l'avions dans le monde, n'est-ce pas vrai? On ne vivait que pour attendre des uns des autres quelque chose. Et comme on a été déçus, alors on s'est converti. Mais cet amour filéo, on ne l'a pas abandonné. Comme on a été déçus dans le monde, maintenant on vient dans l'église et on recommence à manquer la même chose. Et attendre des autres chrétiens.
qui nous donne, qui nous bénisse, qui nous fasse beaucoup de choses. Et au bout d'un certain temps, on voit que ça ne marche pas. Ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Et Dieu permet même que ça ne marche pas, parce qu'il faut apprendre une leçon. Je bénis le Seigneur d'avoir passé par là. C'était cuisant, ce moment-là, je vous assure. Je riais pas trop, hein. C'était cuisant. Il me semble que j'ai jamais passé par une porte aussi étroite. Le feu était là. Mais j'en avais besoin. J'en avais besoin. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ne l'oubliez pas. C'est cette relation d'amour qui se sacrifie et qui n'attend plus rien. Qui dit pour donner est se donner. Et laissez-moi dire une chose. Jésus lui m'a dit, donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée, et qui déborde, secouée. J'ai été secoué, vous serez secoué. Mais c'est pour que ça déborde. Ce n'est pas pour vous écraser. Donnez et il vous sera donné. Vous avez remarqué? Si nous, c'est pas une question d'argent ici. Attention, il y en a qui ont changé ce verset avec les pesetas. Donnez et il vous sera donné. D'ailleurs, si c'était une question d'argent, ceux qui demandent comme ça des sous, vous savez ce qu'ils devraient faire? Ils devraient ne rien de demander aux autres. C'est eux qui devraient donner. Puisqu'en donnant, ils recevraient. Mais ils ne le font jamais. Ça marche à sens unique, ça. Toi, donne et tu recevras. Mais moi, jamais. Pourquoi jamais? Puisque tu le demandes aux autres, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Hein, parce que ça ne marche pas. Et c'est comme ça qu'on appauvrit les uns. On les rend esclaves. On les domine. Donnez! C'est dans ta vie spirituelle. Vis pour donner, et il te sera donné. Si les hommes ne te donnent rien, Dieu lui, au bon moment, te donnera ce dont tu as besoin. Il saura t'encourager quand tu en auras besoin. Il est le bon berger, il s'occupe de sa brebis. Alléluia! Mais tu ne dois plus être dépendant de l'un ou de l'autre. L'amour agapé nous libère de cette dépendance et de cet esclavage. N'est-ce pas merveilleux? Comment plaire à Dieu? En faisant tout pour plaire au Seigneur, en veillant à cette relation d'amour. Et si tu vis pour donner, Dieu te donnera toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il va te donner, tu vas le donner aux autres. Il n'y a plus rien d'égoïste. Dieu le Seigneur va dire, à celui-là, à celui-ci ou à celle-là, je peux donner, parce que je sais que ça va. C'est pour aller ailleurs, c'est pour donner. Donnez, il vous sera donné. À celui qui donne ne s'appauvrit jamais. Au contraire, il s'enrichit de plus en plus. À celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, n'est-ce pas vrai? Le sacrifice, la respiration de l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église en a besoin, n'est-ce pas vrai? Chaque chrétien. Nous vivons un temps où l'égoïsme est même enseigné dans les églises, où on dit que s'aimer soi-même, c'est quelque chose. Il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas à être enseigné à comment vous aimer. On s'aime déjà de trop.
Voilà.
Quand Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, cela veut dire que comme tu t'aimes déjà beaucoup, alors tu pourras aimer les autres. Tandis qu'aujourd'hui on dit que non, il faut qu'on nous enseigne d'être aimés. Et il y a des livres comme ça. Et même le péché, certains livres disent que le péché c'est un manque d'estime de soi. Alors comme nous l'avons vu tout à l'heure, le péché ce n'est pas un manque d'estime de soi, c'est une rébellion. C'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. C'est ça le péché. Moi, je ne vis pas dans le péché. Ah oui, mais tu as le principe du péché dans ta vie encore. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Tu es chrétien, mais tu as les principes du monde, principes païens. Et c'est pour soi que beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas. Ils sont constamment dépendants des uns et des autres. Donnez, et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est de nous donner pour qu'on puisse donner et déborder. Déborder! Il n'y a plus rien pour nous-mêmes. N'est-ce pas merveilleux? Enterre cet amour, Philéo, qui te rend esclave et insatisfaite. Car quelqu'un qui vit pour lui-même ne sera jamais satisfait. Jamais. Tandis que celui qui vit pour les autres expérimente une joie céleste, la joie du ciel, la joie du Seigneur, la joie des anges. Pourquoi le ciel sera le ciel? Avez-vous réfléchi? Parce qu'au ciel, plus personne ne pense à lui-même. C'est le ciel parce que chacun ne pense qu'à l'autre. Alléluia. Chacun ne pense qu'à l'autre. C'est ça le ciel. Dites-moi, si ça se passait dans chaque église comme ça, est-ce qu'on ne verrait pas un grand réveil? Est-ce qu'on ne verrait pas des choses merveilleuses? L'amour qui se sacrifie. Mais cet amour, je termine maintenant, c'est un amour qui dit toujours la vérité. Attention. C'est pas un amour qui dit je t'aime, et qui laisse faire n'importe quoi. Quand Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il était au fond même du problème, n'est-ce pas vrai? Il a vu que Pierre avait un problème. Aujourd'hui, on dirait, oh non, oh là là, faut pas le choquer, il faut pas le troubler. Non, ça va lui faire de la peine. Il vaut mieux que ça fasse de la peine. Pour que l'abcès soit une fois pour toutes percé. Amen. C'est le plus mauvais service qu'on aurait rendu si on ne m'avait jamais dit, Sam. Voilà pourquoi tu fais cette dépression. C'est parce que tu as un amour égoïste. Tu ne vis que pour toi, tu ne penses qu'à toi, tu n'as pas pensé à l'autre. C'est le plus mauvais service qu'on m'aurait rendu. Le véritable amour dit toujours la vérité. Amen. Toujours. Une vérité qui est conforme à la parole de Dieu. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne couvre jamais la vérité. Aujourd'hui, au nom de l'amour, on cache la vérité, n'est-ce pas vrai? Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et qui vous cache la vérité, c'est un menteur et c'est un traître. C'est un traître. Parce que quand on aime vraiment, on dit la vérité, n'est-ce pas vrai? Parce qu'on pense au bien de l'autre. Mais à vouloir toujours plaire aux autres, finalement, on risque d'être rejeté soi-même. J'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ce premier amour qui faisait de toi une autre personne. Où tu ne calculais plus rien. Cette joie était sincère, profonde. Rien ne t'arrêtait. Tu étais prêt même à te donner ta vie. Pour le Seigneur et pour les autres, rien ne t'arrêtait. Personne ne peut arrêter celui qui aime vraiment. Il ne m'a pas laissé seul. Avez-vous remarqué, quand on aime comme cela, on peut être rejeté par certains, mais le Seigneur, lui, sera là toujours. Il ne m'a pas laissé seul, n'est-ce pas merveilleux? Vous ne serez jamais seul. Lorsque vous aimez de cette façon, qui se sacrifie et qui dit la vérité, parce que quand vous commencez à dire la vérité, on vous rejettera. On vous critiquera, mais très peu ont le courage de passer par ce chemin-là. Puissions-nous être de ceux qui vont jusqu'au bout avec le Seigneur. Excusez-moi, je devais vous donner d'autres références, mais ce sera pour une prochaine fois. Le Seigneur avait certainement autre chose pour nous cet après-midi.
n'avais absolument pas pensé à tout cela. Mais je pense que nous en avons besoin. C'est une parole qui m'a délivré et qui a sauvé ma vie et même mon ministère. Si j'étais entré dans le ministère avec ça, c'était fini, je ne sais pas l'enfer. Je ne serais peut-être plus dans le ministère maintenant, ça serait fini. Que le Seigneur nous donne d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. L'amour agapé. Agapé, l'amour divin qui vit pour donner, se sacrifier et toujours dire la vérité selon la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse.
Amen.
Que nous enterrions définitivement cet amour filéo qui nous paralyse, qui nous rend esclaves, égoïstes, insatisfaits. N'attendez plus rien des autres. Donnez-vous. Annoncez la bonne nouvelle.
Amen.
Et vous verrez que le Seigneur sera près de vous. Il y a un berger fidèle qui n'abandonne jamais ses brebis. Il se tiendra près de vous. Nous l'avons vu tant de fois, comme au Gabon, alors que nous étions presque des condamnés à mort. Le Seigneur nous a aidés, nous a soutenus. Il vous tiendra, il vous soutiendra. Mais il faut régler ce problème de tout faire pour plaire au Seigneur dans cette relation d'amour sincère, biblique, qui fera de vous de nouvelles personnes. Et Pierre, qu'est-il dit de lui après? La tradition dit qu'on voulait le crucifier comme le Seigneur. Et il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Et on l'a pendu, la tête en bas. Il avait appris la leçon. Il n'était plus le même. Je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Quel merveilleux témoignage, quelle transformation, on n'attend plus rien. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ainsi que les fleuves peuvent couler. Quand le moi a été crucifié, son égoïsme a été une fois pour toutes mis à la croix et journellement maintenu à la croix, pour que ce fleuve de vie, d'amour, de vérité, car amour et vérité vont toujours ensemble, vous ne pouvez jamais les séparer, c'est un mariage parfait. Que le nom du Seigneur soit béni. Commençons à vivre ces vérités-là, et nous plairons à Dieu. Et si nous plaisons à Dieu, il saura le manifester dans notre vie. De mille et une façons, lui le fera. Si les hommes ne le font pas, il le fera. Ne vous découragez pas, il le fera. Il se tiendra près de vous. Si tous vous abandonnent, il y en a un qui ne vous abandonnera jamais. Paul, à la fin de sa vie, dit, tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a secouru. N'est-ce pas merveilleux? Quelle belle parole! Seigneur n'a pas abandonné son apôtre tout seul à la fin de sa vie dans une prison. Tous l'abandonnent, mais il y en a un qui a été fidèle et qui sera toujours fidèle. Puissions-nous, nous aussi, être fidèles dès maintenant et jusqu'à son retour. Amen. Courons-nous dans la prière. Restons dans la présence du Seigneur à un moment donné. Seigneur, tu veux que nous ayons une vie qui te plaise. Et comme toi, tu veux que nous ayons les mêmes sentiments qui étaient en toi. Seigneur, je veux renouveler ce don de moi-même pour toi. Vie pour aimer comme tu m'as aimé. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de nous-mêmes pour vivre de cet amour agapé qui libère, qui transforme et qui est une bénédiction aux autres. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta gloire.
Amen.
prière quelques instants encore.
Amen. Le Seigneur m'a donné deux paroles prophétiques pour des personnes bien particulières au milieu de vous. Et la première de ces paroles vient s'imbriquer merveilleusement dans ce qui vient d'être dit. Et je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire. D'ailleurs, lui-même, je vois qu'il a été bouleversé dans son message aussi, par le Seigneur. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui m'a donné ces paroles. Pour une personne appelée par Dieu au milieu de nous, à le servir, et qui pense être hors course aujourd'hui, penses-tu ne plus faire partie de la course, te dit le Seigneur. Quels que soient tes découragements, je t'ai appelé à t'enrôler dans l'armée de mes serviteurs. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu me serves d'un cœur entier et que tu cherches à me plaire dans chacune, c'est extraordinaire ça, dans chacune des situations dans lesquelles tu te trouves. Je veux que tu connaisses la raison suprême pour laquelle je voudrais que tu me serves. Il faut, te dit le Seigneur, que ta consécration soit totale, caractérisée par un travail assidu, une discipline rigoureuse, que tu puisses en tout temps dire non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Que ta motivation suprême soit ce désir de me plaire. Quelle que soit la tâche que je te confie, je confirme une fois de plus aujourd'hui que je t'ai appelé à mon service et que je compte sur toi pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi. C'est solennel. Seigneur s'adresse à une personne bien précise au milieu de nous. Puisses-tu entendre ces paroles, obéir à ton maître, te reconsacrer à lui et ne pas estimer que tu es hors course. Parce que le Seigneur ne t'estime pas hors course. Il veut que tu reprennes le flambeau.
Amen.
Et que tu avances. Et que tu cherches à lui plaire, justement, dans toutes tes voies. Et maintenant, une autre parole pour une personne qui cherche une direction pour sa vie. Toi qui attends mes directives, te dit le Seigneur, pour savoir ce que tu dois faire, attends. Jusqu'à ce que ma direction soit si claire pour toi que la rejeter serait une pure désobéissance de ta part. Si rien ne t'indique qu'il faut partir, c'est que tout indique qu'il te faut rester. N'avance que sur mon ordre, te dit le Seigneur, et ton cœur sera en paix et tout se mettra en place pour toi. Je suis ton berger et je veux te conduire sur le chemin préparé pour toi. Fortifie-toi simplement avec cette pensée que je contrôle toutes les circonstances de ta vie et que rien ne t'arrive sans que je le veuille, te dit le Seigneur. Alléluia. Nous te prions pour ces deux personnes concernées qui se reconnaîtront dans ces prophéties. Merci Seigneur de leur renouveler en elles, dans ces personnes, un esprit bien disposé à te plaire, à faire ta volonté et non la leur, à reprendre leur flambeau à se lever et à décider de marcher avec toi dans une obéissance comme la tienne, Seigneur, à ton Père. Louange, gloire et puissance à toi.
Amen.
Alléluia. Et j'aimerais qu'on se lève maintenant dans la présence du Seigneur. Le Seigneur va toucher une ou deux personnes bien précises, bien précises. Le Seigneur guérit l'âme, le Seigneur guérit le corps aussi. Et il veut toucher des personnes au milieu de nous. Alléluia Seigneur. Oh, levons nos mains vers le Seigneur. Abandonnons-nous à lui. Et disant, Seigneur, me voici avec tout ce que je suis, ce que je ne suis pas. Je veux que ça change dans ma vie. Je veux être différent, différente. Seigneur, touche-moi, Seigneur. touche-moi, Jésus.
Alléluia.
Oh, alléluia. Et le Seigneur a montré qu'il n'aime personne mais de nous qui a ses poumons engorgés et de l'asthme. Alléluia. Et le Seigneur touche cette personne. Alléluia. Reçois la touche, mon de Dieu, de ton Seigneur, et sois guéri. Reçois la guérison de sa part. Que tes poumons se désengorgent et que cet asthme disparaisse. Au nom et par la puissance de Jésus ressuscité, qui est là et qui pose sa main sur toi. Et que tes poumons soient libérés. Libérés. Alléluia. Par la puissance de Jésus. Alléluia. Oh, nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Une autre personne qui a le cœur qui bat la chamade. Ton cœur s'emballe parfois et le Seigneur régularise cet après-midi les battements de ton cœur qui s'emballe. Alléluia. Et il cessera de s'emballer tout simplement. Alléluia. Merci Seigneur pour ton attouchement.
Amen.
Tu sais guérir un cœur, tu sais normaliser ses battements. C'est toi qui l'as créé, Seigneur, et nous te rendons gloire. Parce que rien n'est impossible pour toi. Et encore une dernière personne, quelqu'un qui a des démangeaisons terribles à cause d'un eczéma. Et le Seigneur va faire sécher cet eczéma qui te fait tant souffrir. Reçois l'attouchement de Dieu aussi maintenant du Seigneur et sois guéri par la puissance de Dieu. Dis merci Seigneur, disons merci ensemble au Seigneur pour ces personnes qui l'ont touché. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur d'être au milieu de nous et de nous avoir parlé, touché de différentes façons, par une chose ou une autre. Nous sommes devant toi comme un livre ouvert. Tu connais tout ce qui se passe dans notre organisme. Louange et gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur.
Et je voudrais juste rendre ce petit témoignage pour moi-même. J'ai souffert toute la semaine de douleur ici sur le côté là. Je me demandais comment j'allais tenir aujourd'hui. Et hier, dans un simple moment de louange devant à la maison, devant mon piano, le Seigneur m'a touchée. Je me suis réveillée. Alléluia. Je veux lui rendre gloire. Merci Seigneur. Tu t'occupes de chacun de toi, Seigneur.
Alléluia.
Merci.
Amen.
Amen.
Amen.